Bonjour mes frères et sœurs, je reviens ce soir sur le sujet d'Israël que j'ai commencé à développer l'autre jour. On ne peut pas parler d'Israël en 2 minutes, c'est une histoire qui dure depuis 4000 ans, et donc je reviens ce soir et je reviendrai encore certainement dimanche. Israël est revenu sur sa terre alors qu'il était mort. Il était mort. Il était dans un état épouvantable. On va lire Ézéchiel, chapitre 37. C'est une vieille prophétie qui avait été donnée à un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Et voilà ce que Dieu dit. « La main de l'Éternel fut sur moi. » C'est Ézéchiel qui parle. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, « Prophétise et parle à l'esprit. » Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le prophète Ézéchiel a vu ce qui allait se produire des centaines d'années à l'avance, des milliers d'années à l'avance. Parce que tout au long de son histoire, qui dure quand même depuis 4000 ans, depuis la promesse faite à Abraham, Israël n'a pas toujours été fidèle à l'alliance que Dieu avait faite avec son père, avec ses pères, avec Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont été déportés plusieurs fois, ensuite ils ont été colonisés plusieurs fois. Même du temps de Jésus, ils étaient colonisés par les Romains. Et jusqu'au siècle passé, ça n'était pas encore une nation. C'est devenu une nation, un pays en 48. Ils ont été massacrés par les nazis, vous connaissez. Et il y a eu un petit reste au milieu des nations. C'est ce qu'Ézéchiel a vu, une vallée d'ossements, des millions de morts, des morts. Israël était comme mort. Et les survivants se trouvaient dispersés dans les nations, persécuté aussi, maltraité. Dire qu'il y a encore parmi ceux qui se disent chrétiens des antisémites. Mais mon Dieu est fidèle et la prophétie s'est accomplie, en partie. Israël est redevenu un pays, il est revenu dans son pays, mais c'est encore, même si c'est réel, l'esprit n'est pas encore en lui. C'est quand le Messie reviendra que l'Esprit entrera en Israël. Pour le moment, Israël, c'est un pays politique, financier, tout ce que vous voulez, mais pas religieux. Il y a des religieux, évidemment, mais bon, c'est pas une théocratie. Israël, déjà, n'est plus une vallée d'ossements. Ça a pris corps. Dans l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel, nous en sommes au verset 8. Le verset 8, il dit « Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il leur manque plus que la vie, l'esprit. » C'est-à-dire la venue du Messie promis. Ils l'attendent. Ils ne savent pas que c'est Jésus, mais nous, nous savons que c'est Jésus. Ce Messie, Jésus, les prophètes de l'Ancien Testament l'ont annoncé à l'avance. Le mot Messie dans l'Ancien Testament désigne celui qui est oint d'une huile sainte. Et le prophète Ésaïe a annoncé une prophétie très claire au sujet de Jésus. On peut la lire dans Ésaïe 7. Verset 14, voilà ce qui est dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille, la Vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça signifie Dieu avec vous. C'est ce que l'ange Gabriel a annoncé à Marie, une jeune fille, une Vierge. On peut lire dans Luc 1, 26, si vous voulez. Luc 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. » Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison d'Israël éternellement, et son règne n'aura point de fin. Au verset 14, Marie dit que son esprit se réjouit en Dieu son sauveur. Juste un petit mot pour dire à nos frères et sœurs catholiques que Marie avait besoin d'un sauveur, donc elle n'était pas Immaculée Conception. Elle avait besoin d'un sauveur. On peut lire aussi dans Matthieu ce que Dieu a dit à Joseph, parce que Dieu a parlé quand même à Joseph. Le pauvre Joseph, il était tout troublé avec cette histoire de sa fiancée avec qui il n'avait aucune relation sexuelle, et puis la voilà enceinte. Alors Matthieu 1, 18, 25, voilà ce qui est dit. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son fiancé, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, la femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait ordonné par le prophète, annoncé par le prophète Esaïe, qu'on a lu tout à l'heure. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, l'ange dit, tu lui donneras le nom de Jésus pour accomplir la prophétie qui dit qu'il s'appellera Emmanuel. Ça peut paraître bizarre. Mais il faut comprendre la pensée biblique. La pensée biblique, c'est, Dieu ne pense pas comme nous. Et les cartes semblent brouillées, mais pour ceux qui connaissent les codes, eh bien, on comprend ce que ça signifie. La naissance de Jésus, annoncée par Esaïe, se réalise là, et tu lui donneras le nom de Jésus pour accomplir ce qu'avait annoncé le prophète, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est-à-dire que tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est Dieu avec vous. Jésus est Dieu avec nous, Dieu dans la chair. Je dis ça pour expliquer à nos frères juifs et à nos frères musulmans, à nos amis musulmans, qui ne croient pas que c'est possible, que c'est bel et bien écrit et que c'est bel et bien comme ça que ça s'est produit, et tout ce qui a été annoncé s'est réalisé, et tout ce qui n'est pas encore réalisé va se réaliser très prochainement durant notre génération. Je vous montrerai. Maintenant, le prophète Michée a annoncé le lieu de naissance de Jésus. On va lire ça dans Michée au chapitre... voyons, où est-ce qu'il est, mon ami Michée? Je l'ai perdu. Non, je ne l'ai pas perdu. Michée, chapitre 5, verset 1. Voilà ce qu'il est dit. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il ne domine pas encore, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, évidemment, puisqu'il est Dieu. Voilà. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès. Enfin, voilà. Vous lirez toute la prophétie si vous voulez. Vous savez, c'est dommage, les chrétiens ne connaissent pas bien l'Ancien Testament, parce qu'ils disent, non, on est de la Nouvelle Alliance, non, l'Ancien Testament, il n'y a pas besoin de... Il faut connaître l'Ancien Testament, parce que c'est ce qui annonce le Nouveau. Et c'est dommage que les Juifs ne lisent que la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, et puis leur Talmud. Mais ils méprisent beaucoup les prophètes, ils ne les lisent pas beaucoup. Et c'est pourquoi, par exemple, ils n'ont pas reconnu que Jésus était leur Messie, parce qu'ils s'attendaient à ce que le Messie vienne et les délivre des Romains. Mais ce n'était pas ça. Jésus n'était pas venu pour les délivrer des Romains, mais les délivrer du péché. Ils n'ont pas compris. Yeshua, Hamashiach, Jésus, le Messie, est israélite. Il est né en Israël, il a vécu en Israël, il a accompli sa mission en Israël, il est mort sur la terre d'Israël, sur le mont Golgotha que j'ai vu. Il reviendra en Israël pour sauver le peuple d'Israël et établira son règne de paix dans le monde. Il est à la fois le Messie souffrant d'Ésaïe chapitre 53, je pense que vous connaissez. Les Juifs ont souvent dit que ce chapitre avait été rajouté par les chrétiens parce que c'est pas possible, gna gna gna. Mais ils sont bien embêtés, ils peuvent plus le dire parce que maintenant on a retrouvé ces manuscrits qui datent de bien avant Jésus-Christ dans les manuscrits de la Mer Morte. Alors ils peuvent plus dire ça maintenant. Mais cette prophétie d'Ésaïe 53, voilà ce qu'elle dit. Ésaïe, attendez que je le trouve. Excusez-moi, j'ai des tas de petites notes. Ésaïe 53, le voilà. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'était annoncé par Ézéchiel, c'était annoncé par Michée, c'était annoncé par tout l'Ancien Testament, tous les prophètes. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Pas grand monde, hein. Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 disciples dans la chambre haute. Jésus, en 3 ans et demi, il a réussi à avoir 120 disciples. C'est pas beaucoup, hein. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Qui ? Bah, les Juifs. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Hein, c'est annoncé par le prophète Ésaïe des centaines d'années avant la venue et la mort de Jésus. Il annonce comment il va mourir et comment le peuple juif va penser qu'il est frappé de Dieu, humilié, puni. Et il continue en disant, mais il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez, le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés est tombé sur lui. Il en est mort, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pas que nous serons guéris, ou peut-être nous serons peut-être guéris, éventuellement si c'est la volonté de Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous, alors il continue, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Hein, il y avait les pharisiens, les esséniens, les sadducéens, et puis tous les autres. Enfin, c'était, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Hein? Qui a cru? Très peu de monde, très peu de monde. On a mis son sépulcre parmi les méchants. C'est-à-dire, voilà, c'était pas un méchant, le pauvre frère qui a donné son tombeau, mais disons que c'était pas. Bon. On a mis son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains parce qu'il est en train de prolonger sa postérité. Il vit au travers des chrétiens, il vit en nous. C'est au travers de nous qu'il fait les miracles, c'est au travers de nous qu'il fait connaître la vérité. Il prolonge ses jours au travers de nous par son Esprit Saint qui est en nous. Donc il est écrit, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il était mis au nombre des malfaiteurs. Vous voyez, Jésus l'a dit, il avait dit avant d'être crucifié, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Je suis le berger, je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et les pharisiens sont entrés dans une colère. Ils disent, ouais, tu blasphèmes. D'abord, puis en plus, il y avait ceux qui ne croyaient pas à la résurrection. Alors, ils disaient, ouais, tu dis des âneries. Enfin bon, ils n'ont rien compris, les pauvres. Parce qu'ils n'étudient pas les prophéties. Encore maintenant, ils n'étudient pas les prophéties. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous voyez, c'est lui qui intercède, c'est pas Marie, c'est Jésus, le seul intercesseur. C'est lui qui intercède pour nous auprès du Père par son sang précieux. Il présente son sang au Père pour nous. Et quand il est dit qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il a porté les péchés de tout le monde parce qu'il y en a... Ils veulent pas de lui de toute façon. Bon ben voilà, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est mort à Golgotha, il reviendra en Israël pour sauver son peuple d'Israël, il établira son règne de paix dans le monde, parce qu'il est à la fois le Messie souffrant d'Ésaïe 53, que je viens de vous lire. Il y a plus de 2000 ans, il était le Messie souffrant, mais maintenant il est le Messie de gloire qui vient. Il arrive, il est à la porte. L'auteur aux Hébreux, moi j'ai la conviction que c'est l'apôtre Paul, mais ça chacun pense comme il veut, c'est une opinion. Hébreux 9, 28, voilà ce qui est dit. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, et il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Là, Jésus apparaîtra une seconde fois. Quand il est monté au ciel, les anges ont dit, pourquoi est-ce que vous regardez comme ça vers le ciel? De la même manière dont il est parti, il reviendra. Il reviendra du ciel. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est le Messie, ne le croyez pas. Quand il reviendra, il viendra du ciel. Tout genou fléchira devant lui. Tout œil le verra. Et tout le monde le reconnaîtra. Il n'y a pas de Messie pour le moment. Tous ces gens qui se disent de Messie sont des faux Messies, des faux Christ. Il apparut une première fois pour abolir le péché par son sacrifice en croix, et il apparaîtra une seconde fois sans péché pour ceux qui l'attendent. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous attendez le retour de Jésus? Dans l'Apocalypse, c'est écrit que l'Esprit Saint et l'épouse de Christ soupirent et disent « Viens Seigneur Jésus ». Moi, j'ai qu'un espoir, c'est son retour, mais c'est qu'il vienne. C'est par Israël que Dieu a fait connaître son Fils unique, Jésus le Messie. Alors, c'est pas étonnant que Jésus lui-même dise, on trouve ça dans Jean 4, 22, le salut vient des Juifs. Alors, vous êtes antisémite, ben vous avez tout faux. La première venue de Jésus est la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il a dit, voici, ceci est la Nouvelle Alliance que je fais avec vous, l'Alliance en mon sang. Hein. Vous rappelez quand il a donné le pain et le vin. Il est annoncé dans l'Ancien Testament, il est révélé, il est manifesté dans le Nouveau Testament. Il constitue l'événement central, capital, pour la vie du peuple d'Israël, qui est un corps debout, mais un corps mort, un corps sans vie. Voilà pourquoi il se passe tant de choses qui sont terribles. C'est quand Jésus reviendra que les Juifs le reconnaîtront en pleurant sur lui, et là, la vie entrera dans ce corps mort qu'est Israël actuellement. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ces choses. Et je reviendrai là-dessus dimanche prochain. J'espère que j'ai été assez clair. En tout cas pour ça, maintenant on ira plus loin. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.